Voilà, vous avez choisi Radio Ndekiduka pour vous informer. Merci pour la confiance. Il est justement 13h et Inès Langopo est avec nous pour le journal. Inès Laure, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania-Bodé, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition de la mi-journée. Un jeune homme d'environ 30 ans a été abattu par balle ce matin au quartier Ngongono 2 dans le 8e arrondissement de Bangui. Un élément des forces armées centrafricaines serait l'auteur du meurtre. Deux personnes seraient également tuées hier dans la commune de Markunda, un acte attribué aux combattants de l'ex-Séléka qui opèrent dans cette région. Et puis le gouvernement est de nouveau devant l'Assemblée nationale. Les débats portent sur le système éducatif en République centrafricaine. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place. Un sport qui est Luxin Riva qui évolue depuis 3 mois au club Rafikid au Rwanda. À suivre le portrait du jeune basketteur centrafricain dans la page sport.
À la une de cette édition, Inès, un jeune homme âgé d'environ 30 ans, a été abattu par balle ce matin par un élément des forces armées centrafricaines.
L'acte s'est produit au quartier Ngongono dans le 8e arrondissement de Bangui. Radio Ndekiluka s'est rendu sur les lieux du drame. Selon les parents de la victime, c'est quelques soldats des forces armées centrafricaines venus de leur service à l'aéroport accusent leur fils Sabas Dogo Ngaiwaya de vouloir tuer quelqu'un. Après une vive discussion, l'un des soldats a fait usage de son arme. Romaric Ngenedi, juge coutumier du chef du quartier, explique les faits. Il est au micro de Bonaventure Ngumba Katikeo.
Tout à coup, j'ai écouté le son d'armes. Je suis venu et voilà, j'ai trouvé 4 militaires. Voilà, l'autre en train de saisir le gars qui est succombé. Et le gars disait que j'ai fait quoi. Et pendant une histoire de 2 à 3 minutes, l'un des militaires a tiré 3 balles sur le gars et effectivement, le gars est mort. J'ai demandé l'un des militaires, il ne m'a pas répondu. Par rapport à quelques enquêtes que j'ai menées à l'instant même, il y a 2 gars qui m'ont dit, il y a un frère qui s'appelait Adolphe. Dans son travail, il faisait partie des Séléka. Adolphe, c'est lui qui avait parlé de ce monsieur qui est mort là, au militaire, raison pour laquelle les militaires sont venus l'abattre. La personne qui est morte, il a écouté Adolphe en train de parler et il est venu avertir ses parents que voilà ce qu'Adolphe a dit, il veut me tuer. Donc c'est hier et aujourd'hui maintenant l'acte est passé. Et moi automatiquement j'ai appelé le commissaire de 8e, j'ai appelé même le parquet, j'ai appelé même le président du tribunal pour donner des informations. La population avait soulevé pour décider de mourir ensemble avec ce gars-là. Ils voulaient même tabasser les militaires pour que le ministère puisse les tuer parce qu'ils ont tué déjà l'un de leurs frères sans cause. Donc voilà la réaction de la population.
Un autre drame, Inès. 2 hommes ont été assassinés hier à 15 km de la commune de Markunda dans l'Ouham.
Ils étaient des mécaniciens. Selon les informations en notre possession, les 2 hommes partaient au village Kouki pour acheter des pièces détachées. La peur a gagné la population après ce drame. Chris Roy Jordan Badengbe a joué au téléphone un habitant de Markunda ce matin.
Les 2 jeunes du village Bojomo, ils ont quitté Bojomo pour se rendre à Kouki pour leurs marchandises. Arrivés à 15 km de ce village, les bandits sont surgis au cours de la route. Ils ont arrêté ces 2 jeunes et ils l'ont assassiné. Ce qui fait que la peur pour actuellement, ça règne dans la zone de Markunda. C'est hier vers 14h que le corps sont retirés pour aller éliminer à Bojomo. Le gouvernement doit déployer une force parce que nous avons les forces armées qui sont là ici à Markunda. Mais ils n'ont pas le moyen de déplacement pour circuler dans les différents axes parce qu'ils sont en train de circuler. Peut-être les malfaits peuvent se retirer dans les zones et puis laisser la libre circulation que la population peut circuler pour chercher ce qu'elle veut. Là, présentement, les forces armées sont à Markunda. Ils sont sur place parce qu'il n'y a pas le moyen de déplacement.
Alors que l'économie centrafricaine tourne au ralenti depuis plusieurs mois, le pays opte pour de nouveaux partenariats.
Oui, la République centrafricaine annonce le renforcement de sa coopération avec la Turquie. Bangui et Ankara se sont mis d'accord de coopérer dans plusieurs domaines, à l'exemple de la diplomatie, le transport et d'échanges commerciaux. Cela fait suite au récent déplacement du président Tadir à Istanbul, où il a participé au forum Turquie-Afrique. Écoutons à ce sujet Sylvie Baipotimo, ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Elle est interrogée par Jean-Fernand Quina.
au même titre que tout État, la République africaine est en droit justement de faire appel à des partenaires divers et variés, dont partenaires tels que la Turquie, qui est un partenaire stratégique du fait d'être un partenaire économiquement solide sur différents plans. Nous savons qu'aujourd'hui, sa position entre l'Europe et l'Asie est une position également très stratégique, et les différents domaines dans lesquels la République centrafricaine pourrait bénéficier d'expertise ou d'expérience de la Turquie sont divers et variés. Nous avons également sur le plan international un président de la République de Turquie qui a de la voix et qui a une volonté réaffirmée lors de ce sommet de pouvoir également apporter son expérience et son appui. C'est un partenariat qui se veut gagnant-gagnant parce que la République centrafricaine est un pays effectivement en proie à beaucoup de difficultés, mais qui est un pays aussi à convoitise et qui dispose d'un certain nombre de potentialités qui intéressent aussi d'autres partenaires. Donc c'est à nous, République centrafricaine, de pouvoir aussi mettre en avant cela pour pouvoir attirer des partenaires qui vont venir dans le cadre de partenariats travailler avec nous, et cela pour le bénéfice des peuples respectifs.
Vous écoutez le journal de Radio Ndekeluka Inès. Le gouvernement centrafricain est encore convoqué à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Le Premier ministre Henri-Marie Dondrin et toute son équipe doivent répondre aux préoccupations des députés sur l'éducation en République centrafricaine. Igor Desquin-Sinapa, vous êtes sur place à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés veulent comprendre pourquoi l'augmentation des frais de scolarité dans les établissements publics et privés, mais ils veulent aussi comprendre, entre autres, pourquoi l'usage des maîtres parents perdure.
Tout à fait, Inès, comme vous l'avez dit, la représentation nationale voulait des éclaircissements sur les aspects que vous avez soulevés. Les députés qui étaient à la tribune ont commencé à interroger le chef du gouvernement, notamment sur la question de la hausse vertigineuse des frais de scolarité dans les établissements publics et privés. Ils s'interrogent également sur la gratuité de l'éducation nationale en Centrafrique qui pose problème selon eux aujourd'hui. Et surtout, le point sur les enseignants affectés dans les villes de province qui ne veulent pas regagner leur poste. Alors, les députés ont demandé aussi une interrogation sur la situation de l'université de Bangui à travers la grève de la CNAS qui plonge l'université depuis presque un mois et demi dans le noir. C'est des éclairages que le chef du gouvernement va d'un moment à l'autre monter à la tribune pour donner aux députés.
Oui, Igor, mais est-ce que le gouvernement a apporté quelques éléments de réponse?
Dans son propos liminaire, le chef du gouvernement, Henri-Marie Dondra, a donné certaines informations concernant la situation à l'université de Bangui. Il a d'abord précisé que le gouvernement est en pourparlers avec les grévistes sur les quatre points qui sont l'objet de la grève des étudiants supérieurs. Mais les deux principaux points sont notamment la question sur l'indemnité de grade et l'indice de grade. Ce sont ces deux points qui pose encore problème entre les enseignants du supérieur et le gouvernement centrafricain. Et Henri-Marie Dondra, dans son propos liminaire, rassure les élus de la nation que tout est mis en œuvre pour qu'une parfaite harmonie règne, une compréhension règne, afin que les étudiants du supérieur puissent reprendre leurs activités.
Merci à vous, Igor Desquin-Sinapaya.
Direction à présent la ville de Kagabandoro, dans cette ville du centre-nord de la République centrafricaine. L'administration publique peine à fonctionner normalement.
Oui, Verdiane, les fonctionnaires affectés dans la localité n'ont pas de moyens matériels ni de locaux pour assumer leurs responsabilités. La plupart de ces infrastructures ont été détruites ou saccagées durant la crise sécuritaire. Correspondance de Jean-Pierre Ngarasouma.
Il suffit juste de sillonner les différents services de l'État pour se rendre compte des difficultés des fonctionnaires et agents de l'État déployés dans la localité. La plupart des responsables de services n'ont pas de bureau ni de matériel pour fournir les services sociaux de base à la population. Certains travaillent sous le manguier de la mairie, d'autres chez eux à la maison. Désiré Ondo, chef de service préfectoral de l'agriculture, se plaint des difficiles conditions de travail.
La situation des fonctionnaires au niveau de Kagabandoro est critique. Nous n'avons pas de bureau. C'est maintenant que la MINUSCA a volé à notre secours pour nous réhabiliter le bâtiment de la sous-préfecture, le lieu où, de temps en temps, on peut se réunir pour échanger et pour travailler. Mais le dommage est qu'on n'a pas de quoi s'asseoir. On n'a pas de loyer. Nous louons. C'est-à-dire que l'État nous a donné une opportunité pour faire des demandes de remboursement de frais de loyer. Dommage est qu'on fait souvent des trucs. Je pense que j'ai fait ça sur 4 ans, mais je n'ai jamais bénéficié de frais de loyer au niveau.
Bien que la situation sécuritaire se stabilise progressivement, mais le service de tourisme, des arts et de la culture n'existe que de nom. Il n'y a pas d'outil de travail comme nous le fait savoir Gilbert Kété, directeur régional.
C'est la sous-préfecture qui a été réhabilitée. Mais pour l'instant, il n'y a pas de matériel de bureau. Il n'y a rien. Les portes sont ouvertes, certes, mais on reste debout. Et puis, le message que nous avons à lancer à l'endroit du gouvernement, c'est qu'il prenne ses responsabilités en cherchant à mettre à la disposition des fonctionnaires qui sont à Kakabandoro dans la souffrance les conditions normales de travail.
Il faut le préciser, la plupart des bâtiments de l'État ont été vandalisés, voire détruits par les groupes armés lorsqu'ils contrôlaient encore la ville. Aujourd'hui, la MINUSCA reconstruit quelques édifices publics afin de favoriser la reprise de l'administration à Kakabandoro en particulier et dans la Nana Gribizi en général. Kakabandoro, Jean-Pierre Ngarasuma, Radio Ndekeluka.
Entre-temps, à Bria, la salutation devient un facteur indispensable pour la cohésion sociale dans la ville.
Cette expression de politesse et de fraternité à l'égard d'un individu contribue davantage à la consolidation du vivre ensemble entre les différentes communautés de Bria. C'est ce que nous dit Gasmala Mustapha, notre correspondant.
Dire bonjour à quelqu'un s'enracine davantage dans la culture des habitants de Bria. Ceci grâce aux multiples sensibilisations de différentes organisations de la société civile sur la paix et la cohésion sociale. Dans les rues, au marché et même sur les lieux de travail, les gens se saluent fraternellement, soit en se serrant les mains ou à distance. Mais qu'apporte réellement cette manière d'agir dans la société? Solange Ballot, membre du Forum local des droits de l'homme.
La salutation facilite beaucoup le vivre ensemble parce que si vous avez un problème avec quelqu'un ou peut-être le conflit qui nous a séparés là, si vous saluez votre voisin ou votre communauté qui a été séparée par vous, il va dire que vraiment vous avez changé et vous avez le bon cœur envers lui. Il va revenir dans son communauté qu'il a quitté pour être sur le site ou pour être dans une ville autre. Même si c'est un handicapé, même si c'est une personne qui a la dépression, il fallait dire bonjour, il saura que les gens les aiment.
Pour El Hadj Abakar Ben Outman, non seulement que ce signe de politesse peut rétablir la cohésion entre les communautés déchirées, mais fait également partie des obligations divines.
La salutation provient d'une bonne conduite et surtout recommandée par Dieu. Chaque citoyen, quand il sort le matin, il doit saluer d'abord sa famille dans la concession, les voisinages. Les voisinages sont très importants, il faut les saluer. Quand tu trouves quelqu'un sur la route, il faut lui dire bonjour.
Bria est aujourd'hui l'une des villes de la RCA où les différentes communautés vivent en parfaite harmonie après la crise militaro-politique dans le pays. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Dekeluka.
Actualité et hors de nos frontières, au moins 8 morts dans un attentat suicide le jour de Noël à Béni.
Un kamikaze a déclenché sa bombe le jour de Noël à Béni dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant 7 personnes et blessant 20 autres selon les autorités du pays. Le premier bilan officiel samedi faisait état de 5 personnes tuées dans l'explosion provoquée par le kamikaze dans un restaurant du centre de Béni dans la province du Nord Kivu.
Et puis l'Afrique du Sud a étendu national jusqu'aux obsèques de Desmond Tutu prévu le 1er janvier prochain.
Décédé hier à l'âge de 90 ans, l'archevêque Desmond Tutu est le dernier de la génération des icônes de la lutte contre l'apartheid. Après l'appui d'hommage à la nouvelle du décès, l'Afrique du Sud a annoncé se mettre officiellement en deuil avec les drapeaux en berne dans tout le pays et devant les ambassades sud-africaines dans le monde.
Basketball pour ouvrir la page sport de ce journal.
Oui, pour parler de Lucien Riva, 19 ans, il évolue depuis 3 mois à Rafi Kids, un club de 2e division rwandaise. Parti pour les études, il s'est inscrit dans un institut universitaire et joue au basketball avec beaucoup d'ambition. Dès sa première saison, il a joué les playoffs et perdu la finale en septembre dernier. Aux côtés des fauves de triathlon au Rwanda, Bienvenue Bello l'a rencontré à Kigali.
Arrivé à Kigali pendant la période inquiétante de la pandémie de Covid-19, il a fallu quelques semaines à Lucien Riva pour qu'il se fasse remarquer. Sa taille, 1m98 et son teint clair ont été des éléments qui jouent en sa faveur. Finalement, il est repéré par le coach de Rafi Kids. Après un test, il est retenu pour intégrer le club. Lucien Riva se dit fier de rejoindre l'équipe de Rafi Kids.
On était au nombre de 5, il y avait 3 Congolais et un Tchadien. Moi, je suis le seul centrafricain. On a passé le test et c'était pas facile, mais Étant donné que le coach m'a appris en Centrafrique là-bas, ça m'a aidé un peu ici. Et voilà, ils m'ont recruté dans l'équipe. Ça se passe très bien, c'est très bien organisé. Et aussi, ça me permet d'apprendre aussi l'anglais parce que c'est l'anglais ici.
L'ancien joueur de AS Mazanga du kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de Bangui est impressionné par l'organisation du basketball rwandais. Il souhaite que les choses changent dans son pays, la RCA. Luxin Riva.
Quand notre faut jouer avec les basketteurs du Rwandais ici, c'était pas difficile. J'ai joué parmi eux, mais je vois que leurs niveaux sont maintenant au top parce qu'ils sont bien organisés, ils ont des managers, ils s'organisent très bien. Ce que je souhaite pour le basketball centrafricain, c'est que le président de la fédération, les membres du ministère de la jeunesse doivent s'organiser pour permettre aux jeunes de développer. Les gens qui sont dans l'équipe nationale, ils sont un peu vieux, leur carrière, ça va bientôt finir. Il faut organiser avec les jeunes, les entraîner pour les soutenir d'aller ailleurs pour que notre basket soit un peu meilleur.
La situation sécuritaire et l'entrave au développement de la RCA le tiennent à cœur. Cet originaire de Bangui vivant au Rwanda se révolte contre les manquements. Il souhaite que la paix revienne dans son pays, la République centrafricaine.
Vous voyez ici, au Rwanda, c'était pas facile avant. Il y avait deux ethnies qui se battaient, mais actuellement, ils ont compris que c'est rien. Mais ce que je souhaite pour la Centrafrique, c'est que nous devons nous unir et laisser à côté le racisme pour le développement.
Luxin Riva évolue en banque finance dans une université rwandaise. Il associe actuellement l'apprentissage de l'anglais à la pratique du basketball. Pour l'heure, les choses se passent plutôt bien pour lui. Bienvenue Bello, de retour de Kigali, Radio Ndekeluka.
Merci à vous, bienvenue Bello. Revenons ici à Bangui. Des matchs en retard de la Ligue de football ont été disputés hier au stade Barthélémy Boganda.
En deuxième division, JSB s'est incliné devant FCFDS 1-0 en première division. Les Anges de Fatima et Espoir Club de Big Boy ont fait match nul 1-partout. À Bombaré dans la Waka, un match en retard du championnat de football a eu lieu hier dimanche au stade municipal Coton Sport, a battu Saint-Joseph 3-0. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndekeluka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version Sango, c'est tout de suite.